Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Il y a eu la crise de 2007 comparée à la crise de 29. Les élections européennes de 2014, marquées par une poussée des formations nationales populistes, analysées comme une résurgence du fascisme. Il y a aujourd'hui ces sondages donnant Marine Le Pen, possiblement en tête du premier tour de la présidentielle en France. Et ce, après les victoires, on en a beaucoup parlé sur RFI et ailleurs, de Donald Trump et du Brexit. Le spectre des années 30, prologue à la Deuxième Guerre mondiale, n'en finit plus de hanter le monde, l'Europe et la France. C'est d'ailleurs le thème d'un livre paru il y a quelques semaines, les années 30, et si l'histoire recommençait, avec un point d'interrogation, un livre qui présente de nombreux documents, des photos, des affiches, des tracts qui soulignent des résonances entre les deux époques. Une résonance à laquelle a aussi fait référence, c'était hier soir à Toulouse, le candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon, lorsqu'il s'en est pris à Marine Le Pen.
Tout à fait conforme à la dynastie à laquelle elle appartient, à l'héritage qui est le sien, celui de la collaboration, celui de l'extrême droite, celui des ligues factieuses de 34, celui de cette vieille extrême droite moisie.
Le parallèle entre les années 30 et la période que nous vivons aujourd'hui est-il pour autant pertinent? Eh bien, c'est notre sujet de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, deux invités. L'un est à mes côtés et je le remercie. Olivier Dard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes spécialiste d'histoire politique, spécialiste des années 30, l'auteur de nombreux ouvrages. Citons-en deux qui nous intéressent ce soir. Charles Maurras, paru chez Armand Collin en 2013. Et puis, Les années 30, le choix impossible, paru un peu plus tôt, en 99, au Livre de Poche. Le deuxième invité, nous l'attendons, c'est justement l'auteur du livre dont je parlais dans l'introduction, Pascal Blanchard, chercheur au laboratoire communication et politique. On nous dit qu'il arrivera dans quelques minutes. Nous l'espérons. Alors, Olivier Dard, je vous voyais prendre des notes pendant l'introduction de cette émission. Vous, en tant que spécialiste des années 30, qu'est-ce que vous pensez de ces parallèles qui sont faits? Ça date pas d'hier. Hein. Depuis plusieurs années, on dit beaucoup la période que traverse aujourd'hui le monde ressemble aux années 30. Est-ce que ça vous paraît pertinent ou pas du tout?
Alors, c'est évidemment, je vais pas répondre oui ou non, mais il y a des éléments de comparaison et nous sommes là, je pense, plutôt pour essayer de privilégier les éléments de comparaison. Simplement, je voudrais préciser d'un mot aux auditeurs peut-être deux ou trois choses. La première, c'est que la France des années 30 est un pays très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est un pays à dominante encore rurale, c'est un pays marqué par une participation politique sans doute beaucoup plus forte que celle que l'on voit aujourd'hui. Et on craint beaucoup pour l'abstention dimanche prochain, mais je rappellerai qu'aux élections de 1936, la participation électorale est forte, donc il y a une politisation extrêmement importante. Et j'ajouterais que du point de vue de la crise, ce qui caractérise la crise des années 30 en France, c'est au fond son caractère polymorphe, le fait qu'on ait une crise au fond emboîtée, entre une crise économique avec un chômage, mais un chômage qui n'est pas un chômage de comparable à celui que nous connaissons aujourd'hui, mais surtout une crise politico-institutionnelle avec un thème qui est fondamental, qui est le problème de la réforme de l'État, la question ou non du renforcement de l'exécutif, du pouvoir exécutif. La France des années 30, c'est un régime parlementaire, rien à voir avec la Ve République, et évidemment...
Alors, rien à voir, mais si je puis me permettre, ce côté crise politique, crise institutionnelle, crise économique, ça, pour le coup, ça fait résonance avec la France, le monde d'aujourd'hui.
Ça fait résonance, oui, mais crise politique, crise des forces politiques, sans doute, mais quand je dis que ça n'a rien à voir du point de vue de la réforme de l'État, je sais bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de forces politiques veulent changer les institutions, mais je dirais qu'aujourd'hui, les institutions de la Ve République protègent le pouvoir. L'actuel président de la République a été protégé, d'un certain point de vue, par les institutions de la Ve République. Alors que le problème des dirigeants français des années 30, qui vivent dans un régime parlementaire, c'est de devoir faire face à une instabilité gouvernementale et à une chambre des députés ou à un Sénat qui peuvent beaucoup plus les renverser qu'aujourd'hui.
Alors, voilà pour vous donc les différences. Je les répète, hein, dominante rurale, ce qui est très très différent de la France d'aujourd'hui,
une
participation politique plus importante et cette crise emboîtée qui ne vous paraît pas être exactement la même.
Mais crise emboîtée, je vous interromps un instant, à laquelle j'ajouterai tout de même la menace de guerre. très importante, qui pèse évidemment dans les années 30, est très différente d'aujourd'hui. Nous n'avons pas, je sais que nous avons, que certains disent que nous sommes en guerre face au terrorisme islamiste, attention, nous n'avons pas...
Mais ça c'est une expression que vous récusez, pourquoi ? Parce que...
C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on regarde la France et la situation de la France des années 30, avoir l'Allemagne nazie à sa porte ou l'Union soviétique un petit peu plus loin, on a vraiment une menace de guerre qui est autour de nous, la guerre d'Espagne. Bon, je crois qu'on est dans une situation quand même géopolitique différente.
Il y a la guerre en Ukraine.
Il y a la guerre en Ukraine, mais je n'ai pas le sentiment que l'implication, que les conséquences, si vous voulez, de la guerre en Ukraine soient comparables à ce qu'ont, par exemple, été les conséquences de la guerre d'Espagne en France, qui a posé, par exemple, dans l'immédiate avant-guerre, la question des réfugiés. Parce que il y a des éléments de points communs.
Alors venons-en à ces éléments de points communs qui sont quand même nombreux. J'en ai cité quelques-uns. Quels sont vous les points communs que vous dégageriez ?
Alors je crois qu'il y en a un. Effectivement, je pense que le parallèle part de là. Il part au fond de la prise en compte d'une atmosphère. Les années 30 se traduisent, se révèlent comme une période effectivement où l'atmosphère est particulièrement pesante, la violence notamment verbale, physique, mais surtout verbale dans la presse est particulièrement importante et on est particulièrement en 1938-1939, à la veille de la guerre, dans une période où les peurs dominent, où il y a effectivement un certain nombre d'angoisses. Et je crois que cette question des peurs, cette question des angoisses, sont une des caractéristiques effectivement de ces années 30 qui renvoient effectivement à un parallèle avec aujourd'hui.
Alors peut-être que nos auditeurs ont entendu, alors on va vous venez de sourire à notre second invité qui vient d'arriver.
Absolument, que je salue.
Voilà, bonsoir.
Bonjour.
Pascal Blanchard.
Bonsoir.
Alors je vous représente juste pour les auditeurs qui nous écoutent. Je rappelle que vous êtes chercheur au laboratoire communication et politique du CNRS et vous êtes l'auteur du livre dont j'ai parlé dans l'introduction avec Farid Abdelwahab, Les années 30 et si l'histoire recommençait, qui est paru aux éditions de La Martinière il y a quelques semaines. Avant de vous donner la parole, je laisse juste Olivier Dard terminé. Vous étiez en train de nous dire qu'il y avait donc cette atmosphère, oui, effectivement, dans les années 30, que vous retrouvez un petit peu dans la France d'aujourd'hui.
Je vois bien d'où vient le parallèle, effectivement. Cette atmosphère de peur, cette atmosphère d'angoisse, cette idée, au fond, d'une société qui éprouve un profond malaise, un pessimisme devant l'avenir, qui a du mal à envisager l'avenir, si vous voulez, positivement. Ça, je crois que c'est effectivement un élément de comparaison tout à fait significatif.
Alors, Pascal Blanchard, venons en à votre thèse, celle que vous développez dans ce livre, avec à l'appui des affiches, beaucoup de tracts, des photos aussi, des juxtapositions de photos entre aujourd'hui, enfin aujourd'hui au sens large, hein, on parle quand même de période historique, donc à quelques années près, et les années 30. Comment vous l'avez bâti ce parallèle ? Pourquoi est-ce que finalement vous faites le parallèle entre les années 30 et aujourd'hui ? Est-ce que c'est uniquement une question d'atmosphère, comme vient de nous dire Olivier Dard, ou c'est beaucoup plus profond pour vous ?
D'abord, l'historien a pour mission de poser des questions qui nous font réfléchir. Penser le présent sans s'intéresser à l'avenir, c'est déjà faire souvent des anachronismes. On peut aussi en faire des fois en comparant. Donc plutôt que de le faire que dans un livre, un essai, ce qu'on avait fait avec Renaud Dely et Claude Askolovitch et Yvan Gassot il y a quelques années, on a voulu faire ce pari de faire ressentir les années 30 et de se poser la question, donc en image. Est-ce que ce que l'on vit aujourd'hui dans le monde, et pas simplement nous, Français, dans notre hexagone, est-ce que le ressenti mondial, l'ambiance, je suis entièrement d'accord, l'atmosphère, la crainte du futur, tout ça, là c'est assez évident. Et puis après, sur des faits beaucoup plus précis, est-ce que des mécanismes, qui n'aboutissent jamais d'ailleurs à la même chose, mais des mécanismes ne seraient pas en train de se mettre en marche depuis la crise économique que nous avons connue, comme en 29, d'une sorte de montée des populismes, de montée d'un impérialisme chinois qui fait penser à l'impérialisme japonais, par exemple, en Asie, auquel des fois on ne pense pas à l'arrière du monde, l'arrivée de Trump au pouvoir, la montée d'un certain nombre de mouvements de crispation, l'opposition aussi qui s'est passée des grandes nations autour de la guerre de Syrie, qui fait penser à la guerre d'Espagne, de prendre tous ces ingrédients et d'oser, ce que certains de mes aînés des fois trouvent presque iconoclaste, de poser une question qui est simple, mais est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un mécanisme semblable de ce qu'ont été les années 30 ? Et c'est ça le pari qui est derrière cet ouvrage, et de le faire en plus avec des photos, des images. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, le public qui va se questionner, et qui a le droit de pas être d'accord avec nous, c'est ça qui est tout l'intérêt du travail de l'historien, c'est des fois de poser des questions qui font débat, c'est aussi de ressentir justement cette ambiance des années 30. De voir ce qu'était que ces hommes en uniforme qui défilaient dans les rues. Les gens l'ont un peu oublié. De voir ce qu'a été la guerre d'Espagne. D'imaginer ce qu'a été la conquête de la Mandchourie par le Japon. De regarder ce qu'a été le bouleversement et la montée des populismes. On le dit à un moment, une dictature tous les 6 mois en Europe. Comme ça, c'est très théorique, mais quand on le voit en image, on se dit, le monde basculait. Par exemple, la déshérence du peuple de gauche face à Blum en 37, l'inquiétude d'avoir été trahi par le Front Populaire, la montée face à ça d'une extrême droite, des ligues, mais aussi de l'alliance. Par exemple, de Louis Marin avec Doriot, l'alliance de la droite et de l'extrême droite qui veulent à tout prix mettre à la porte le Front Populaire, le Front de la Liberté. Et on se dit, tiens, ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec un durcissement des droites en France et une montée d'une droite populiste, d'où cette image provocante à un moment, enfin ce jeu d'images provoquant, Marine Le Pen, Jacques Doriot. Un discours de gauche.
Il y a aussi Donald Trump, Mussolini, hein, qui
ça,
effectivement.
C'est pas de ma faute, c'est pas un vous. Journaliste américain qui
c'est
un
New York Times qui le premier se l'est permis.
Mais oui, c'est beau. Il dit un an avant, Trump sera le Mussolini de l'Amérique. Et je trouve ça fascinant de cette vision qu'il a. Donc, au moment où il y a la victoire de Trump et on est en train de terminer l'ouvrage, on se dit, c'est pas nous cette fois-ci qu'allons avoir cette vision comparatiste. Tout le monde se moquait de Trump. Tout le monde le prenait pour un clown. Comme Mussolini. Tout le monde a dit au moment où Trump est arrivé au pouvoir, il va pas rester longtemps. Comme Mussolini. Et c'est intéressant à voir, c'est que dans leur gestuelle, dans leur manière même d'haranguer, même leur manière de se moquer des élites politiques du temps, quelque part, ils se comparent.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, finalement, vous ne parlez pas de la France, mais plutôt du monde. Là, vous nous avez parlé même de dynamique géopolitique, militaire. Olivier Dard, est-ce que du coup, ça vous fait un petit peu revoir votre avis? Vous continuez à différencier la France du reste du monde, les deux périodes?
Je ne différencie pas la France du reste du monde et je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Au départ, effectivement, comparaison n'est pas raison et il s'agit pas de comparer si vous voulez. Comparer, ça veut pas dire arriver à une forme d'homologie. Mais il est évident qu'on est en droit de se poser un certain nombre de questions, y compris d'ailleurs pour préciser aux auditeurs les différences qui existent. Par exemple, puisqu'on parlait du Front National, de Marine Le Pen et de Jacques Doriot, il y a effectivement une poussée, certes, de l'extrême droite dans les années 30, c'est vrai, mais j'ajouterais peut-être deux choses qui sont deux différences marquantes, me semble-t-il. C'est qu'à l'époque, si on laisse de côté ce parti de Jacques Doriot, qui d'ailleurs s'étiole un petit peu, et même nettement en 1938, ces droites radicales en France n'ont pas de parti véritablement organisé. Elles viennent des ligues qui, en 1936...
C'est pour ça que vous tiquiez tout à l'heure quand on a entendu Benoît Hamon faire le parallèle. Ça vous a dérangé?
Les ligues, si vous voulez, les ligues ont été incapables de créer une organisation politique digne de ce nom, sauf le Parti social français qui, lui, en a, le Parti social français, lui, en a tiré toute une série d'enseignements et crée au fond un véritable parti de masse qui annonce le rassemblement du peuple français de Gaulle après la guerre. On parle de 800 000 à 900 000, 1 million d'adhérents.
C'est le premier parti français à la fin des années 30.
Et c'est même le premier parti français de l'ensemble de l'histoire politique.
Ouais.
En revanche, autre différence intéressante, le fait qu'aujourd'hui, le Front National pèse effectivement dans les urnes, mais n'a pas derrière lui une presse comparable, c'est le moins qu'on puisse dire, à ce que pouvait être cette presse.
Est-ce que Facebook et Twitter ne sont pas l'équivalent de Je suis partout, Gringoire, l'Action française cumulée? Quand on voit l'effet d'un tweet aujourd'hui, valait largement un éditorial de Daudet, une phrase assassine de Maurras, une harangue dans Je suis partout d'un de ses chroniqueurs.
Ça ne permet même plus, vous me l'accordez.
Ah, ça, je vous l'accorde. Et Twitter ne permet pas en plus à la plume de s'exprimer. Mais dans la puissance médiatique. Par exemple, tout le monde nous dit nous vivons un temps médiatique d'accélération. Mais l'époque aussi l'a vécu. Rappelons-nous que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, quand ils sont rentrés dans une salle de cinéma dans les années 30 et qu'ils ont entendu le parlant, ça a changé tout leur regard sur le monde. Les histoires d'amour, comme les films de cow-boys, comme les films de guerre, parlaient. Pour nous, ça paraît un détail. On écoutait à la radio un match de boxe qui se passait aux États-Unis. On pouvait traverser l'Atlantique en 5 jours en paquebot. Les avions commençaient à aller en Afrique avec l'aéropostale. Nous, on va se dire, oh, c'est ringard. Mais à l'époque, le monde s'accélérait. Comme nous, aujourd'hui, nous vivons notre propre accélération. Donc, il faut bien se mettre à l'époque. C'est aussi un temps des arts, par exemple, de la culture, de l'écriture. Les grands romanciers du siècle, la révolution dans les lettres. Vous venez de le dire sur la presse, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui parce que les gens ont oublié que la presse écrite a existé. C'était des tirages d'abord hallucinants, mais surtout c'était une presse qui avait le pouvoir de tuer un ministre. Ce qu'on disait à l'époque.
Alors, en l'occurrence, Bruno Leroux aussi a été tué par la presse. Alors, c'était la télévision, mais ça s'est passé il y a quelques semaines.
Tout à fait, mais à l'époque, je rappelais que c'était souvent des pamphlétaires et des caricaturistes qui attaquaient par principe souvent un homme politique pour qui il était, non pas ce qu'il faisait, et qu'on pouvait l'attaquer sur son idée, par exemple, s'il était juif, je rappelle, autour de Blum. Et la violence de la presse de l'époque nous sidérerait aujourd'hui quand on trouve des fois un peu choquant certains tweets ou mails par rapport à la violence de dessin de l'époque et des textes. Et ce temps politique qui aujourd'hui est assez proche de nous, il nous fait renvoyer quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer, mais on demandait à l'époque aux gens de choisir leur camp. C'est-à-dire qu'on pouvait être, oh, je le fais simple, rouge ou brun. Certains étaient capables de vous dire plutôt Hitler que Blum. Aujourd'hui, on a un peu ce sentiment qu'il va falloir dans ce conflit, quelque part, des idéaux. On voit bien qu'il est en train de se couper, en fait, d'une droite et d'une extrême droite d'un côté, avec, de l'autre côté, une gauche qui se cherche et qui s'effondre, et avec un centre, avec Macron. Mais on est en train de vivre en France une sorte de bipartisme qui est en train de naître, d'une certaine manière.
Olivier Dard.
Alors, de bipartisme, est-ce qu'on va vers un retour d'une forme, pour reprendre les mots de l'époque, Front National, Front Populaire? Je n'en suis pas certain. Quand on voit, par exemple, des choses tout à fait sidérantes dans des enquêtes parues aujourd'hui, quant au choix des électeurs, qui peuvent mettre en deuxième choix, par exemple, la vraie Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Enfin, ça paraît tout à fait sidérant. Alors que, effectivement,
mais
ces années 30...
Mais c'est peut-être parce que c'est la fin d'un bipartisme et la renaissance d'un autre.
Exactement, on se cherche.
Oui, enfin, dans les années 30, on se trouvait davantage. Ouais. Pour le coup, là, depuis 33-34, les choses s'étaient relativement polarisées, même si...
effectivement, vous pouvez passer du PC au PPF de Doriot. Rappelez-vous, oui, Doriot vient du Parti communiste.
Nous sommes bien d'accord. Ouais. Mais ça, pour le coup, c'est parce que ça repose aussi un élément qui est très important, qui est le rapport entre centre et périphérie. Les partis de gouvernement contre les partis d'opposition et, élément très important, et la vraie parallèle avec les années 30, la mise en cause des élites. Ça, c'est absolument fondamental. Et des élites, alors qui sont à l'époque les élites parlementaires, puisque je vous disais, avant que vous n'arriviez, c'est un régime parlementaire, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui de ce point de vue-là, mais des élites parlementaires qui sont jugées totalement dépassées.
Alors, il nous reste déjà plus que 3 minutes, mais je voulais quand même vous poser la question du rôle de l'historien dans le débat public. On le voit bien, là, en créant tous ces ponts entre les années 30 et aujourd'hui, vous avez sorti votre livre il y a quelques semaines, Pascal Blanchard, est-ce que vous aviez envie, comme ça, de participer au débat public? Est-ce que il y a là, je sais pas, une démarche de citoyen, peut-être un peu plus que celui d'un historien.
L'historien n'est pas déconnecté de son temps. Son métier ne change pas. Simplement, à un moment, être en résonance avec des événements publics, c'est notre manière à nous de parler. C'est comme pareil quand on fait un film, quand on fait un livre, quand on va contribuer à un film de fiction. Il y a un moment, on n'est pas totalement déconnecté du rythme de son temps. Et après l'élection de Trump, le débat qu'il y a eu avec les élections en Autriche, on s'est dit que ce livre était nécessaire pour regarder le temps présent et le choix qu'allaient faire nos concitoyens, mais pas simplement en France. Vous l'avez bien vu que c'est un livre monde. C'est un livre qui nous permet aujourd'hui de discuter sur ce qui se passe sous nos yeux. Et on s'est dit, plutôt que de laisser aux politiques le fait de parler, vous avez vu que nos politiques en ont d'ailleurs beaucoup parlé dans cette campagne, je le rappelle, entre le Veldiv et la colonisation. C'est aussi à nous, historiens, de donner des armes. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord ou de trouver que sur tel point on va trop loin ou là d'être parfaitement d'accord avec nous. Mais au moins de donner des outils pour que nos concitoyens, quand ils entendent parler certains politiques, quand ils entendent des slogans comme « on est chez nous », quand ils voient arriver quelque part des mots, des textes, la haine de l'autre, la haine du musulman, et puis se rappellent que sur la haine du communisme s'est construit aussi une forme de l'identité nationale dans les années 30.
Donc et ben, c'est en fait donner de l'information pour mieux voter, c'est
pas forcément mieux voter, mieux comprendre. On vote jamais très très bien, vous savez, on se trompe très souvent dans le vote, c'est pas grave, l'important c'est d'aller voter. Par contre, ce qui est très important, c'est comprendre ce qui se passe sous nos yeux. Parce qu'on a cette chance, nous, d'avoir nos aînés qui ont vécu une histoire et de pouvoir nous la raconter. Ce qui n'était pas forcément le cas de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents.
Qui n'ont pas forcément aussi bien décrypté ce qui était en train
de se passer.
Vous
n'avez pas la chance d'avoir des historiens qui leur ont regardé le 19e siècle pour leur expliquer ce qui se passait.
Olivier Dard, est-ce que vous partagez la même notion, la même manière de comprendre, enfin la même notion de l'historien finalement?
Oui, enfin, quant à la nécessité, je suis entièrement d'accord, l'historien n'est absolument pas déconnecté de son temps. Enfin, pour des historiens, ça relève de l'évidence. Également, je crois que, effectivement, vous parliez de la parole publique de l'historien. Moi, je viens ce soir parce que nous parlons des années 30. Et donc, effectivement, je pense qu'on a effectivement des choses à dire sur les années 30. Et je pense qu'on peut...
Oui, mais on parle des années 30 et d'aujourd'hui. Vous êtes aussi venu pour en parler, justement.
Bien sûr, mais je trouve ça tout à fait légitime. Je trouve ça tout à fait légitime parce que l'historien n'a pas à vivre dans une espèce de tour d'ivoire. Et l'histoire, et même quand on est spécialiste d'une période, ce qui est toujours un véritable plaisir, mais c'est pas non plus un concours d'érudition, un concours entre soi. Ça, on peut le faire entre collègues et on a des colloques, on a tout ce qu'il faut pour ça. En revanche, effectivement, si ça peut aider un certain nombre de nos concitoyens à ce qu'un certain nombre de références, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, de déclarations, de raccourcis, puissent faire sens, ben oui, ça, je crois qu'on a effectivement des choses à dire, on a des choses à décrypter, on a évidemment pas forcément toujours le temps dans les médias évidemment de le faire, mais je pense que c'est extrêmement important parce que à la fois, évidemment, nous ne revivrons pas et les années 30 ne reviendront pas, c'est évident que ça plaise ou que ça ne plaise pas ou qu'on veuille se faire peur avec ou non, mais je crois qu'il y a effectivement des éléments d'analyse qui peuvent tout à fait être utiles.
Et donc matière à penser. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de ce débat passionnant. Merci Pascal Blanchard, chercheur au laboratoire communication et politique, donc auteur de Les années 30 et si l'histoire recommençait. Merci à vous Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne. Je rappelle l'un de vos derniers livres. Je l'ai perdu dans mes notes, mais vous on le trouvera sur Internet. Merci beaucoup également à Quentin Bresson, à Florence Ponce. À bientôt.